carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Frédéric Mitterrand, vous êtes un homme de culture, de cinéma avant tout, un passionné d'histoire et, faut-il le rappeler, le neveu de l'ancien président de la République, François Mitterrand. Votre nom est associé au cinéma d'art et d'essai. Vous avez animé de nombreuses émissions de radio et de télévision jusqu'en 2006. Les téléspectateurs ont peut-être en mémoire, par exemple, les séries documentaires que vous aviez réalisées sur les grandes familles princières de l'Europe, sur ces destins du XXe siècle. Vous êtes un homme de médias, un cinéaste, mais aussi un écrivain. Et parmi vos livres, citons « Lettres d'amour en Somalie »,« Destin d'étoiles »,« Les aigles foudroyés »,« La mauvaise vie », publié en 2005 chez Robert Laffont, un roman d'inspiration autobiographique, et « Maroc » en 1960, « Un certain regard sur le Maroc » chez Actes Sud en 2007. Et puis aussi, la même année, vous avez publié un livre sur le Festival de Cannes. Alors, citons aussi deux films, « Lettres d'amour en Somalie », qui a d'abord été un film avant d'être un livre, et « Madame Butterfly ». En ce moment, Frédéric Mitterrand, vous dirigez l'Académie de France à Rome. Le 4 juin 2008, le président de la République, Nicolas Sarkozy, vous a choisi pour en assurer la direction. C'est une prestigieuse institution, un joyau de la culture et du patrimoine français, né il y a bien longtemps, en 1666, qui s'est fixé dans les murs de la Villa Médicis à partir de 1803, date à partir de laquelle elle est rattachée à l'Institut et à l'Académie des Beaux-Arts. En 1961, André Malraux réforme la vénérable institution avec le directeur de cette époque, le peintre Baldus. Aujourd'hui, Canal Académie n'est pas à Rome. Nous sommes sur les bords de Seine, Quai Conti, au studio d'enregistrement à l'Institut de France, où Frédéric Mitterrand nous a rejoints pour nous parler de la Villa Médicis et de ses liens avec l'Académie des Beaux-Arts.
Bonjour à vous.
Bonjour Frédéric Mitterrand. Dans quel contexte est née l'Académie de France à Rome ?
L'Académie de France à Rome est née sous Louis XIV, avec évidemment l'appui ou la contribution de Colbert. L'idée était d'obtenir d'un certain nombre d'artistes, dits les pensionnaires, qui recevaient donc une pension pour cela, d'obtenir d'eux des copies des grands chefs-d'œuvre de l'art italien. L'idée, en fait, était de s'inspirer de l'art italien pour les constructions royales, notamment pour Versailles. Et l'Académie de France à Rome est née dans ces conditions-là. Elle s'est installée dans plusieurs endroits à Rome, et notamment pendant assez longtemps au palais Mancini, sur le Corso. Les troubles révolutionnaires ayant entraîné la fermeture du palais Mancini, finalement, Napoléon a acheté la Villa Médicis, qui appartenait à des héritiers lointains de la famille Médicis, en 1803, et y a réinstallé l'Académie. En élargissant progressivement les disciplines, en rénovant, en réformant, changeant son fonctionnement dans les années 60, la Villa Médicis se présente maintenant comme une institution qui accueille une vingtaine de pensionnaires dans de très nombreuses disciplines par an.
Alors, ces missions actuelles, justement, elle accueille une vingtaine d'artistes et aussi des historiens d'art, pas forcément des artistes.
Alors, un certain nombre d'historiens d'art qui sont appelés à jouer un rôle très important dans la vie culturelle française. Je rappelle que la plupart des directeurs de musées, des grands commissaires d'exposition, des grands critiques d'art sont des anciens pensionnaires de la Villa Médicis. Et à côté, en même temps que les historiens d'art, vous avez des artistes plasticiens, des cinéastes, des stylistes. Toutes les disciplines artistiques, en fait, peuvent être représentées.
Frédéric Mitterrand, la Villa Médicis renferme probablement des fonds, des collections extraordinaires.
Malheureusement, pas suffisamment importantes, oui. Dans la mesure où, à travers les décennies, un certain nombre de collections ont été dispersées. Tout d'abord, les collections des Médicis, qui les ont transférées progressivement dans une première vague très importante au temps de Ferdinand de Médicis, et ensuite, peu à peu, pour ceux qui restaient à Florence. Quant aux collections qui se sont ensuite installées à la Villa Médicis, elles ont été ou dispersées ou confiées à d'autres musées. Et malheureusement, le fonds dont nous disposons n'est pas aussi important que on pourrait l'espérer. Cependant, il existe des choses qui sont très belles, qui mériteraient d'être présentées et mises en valeur. Un certain nombre ont déjà été sortis des réserves, comme les anciennes tapisseries données par Louis XV, qui sont très très belles. Mais d'autres choses restent à faire, notamment la collection des plâtres et des moulages, qui est tout à fait remarquable et qui sera exposée dans un atelier particulier à partir du mois de juillet. Ça sera très beau. Et puis aussi, tout l'ensemble des choses qui ont été achetées par Balthus et qui regroupe un certain nombre de meubles, un certain nombre d'appareils décoratifs de grande qualité. L'ensemble offre un parcours historique tout à fait passionnant.
Balthus, qui était membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui était directeur de cette vénérable institution, y a-t-il des trésors dans la Villa Médicis? Ou des trésors chers à votre cœur, disons.
Alors, des trésors, eh bien, j'en ai un en face de moi, c'est le secrétaire général. Mais évidemment, lui, on ne l'expose pas parce qu'on regarde précieusement, précieusement sous notre houlette. La villa en elle-même est un trésor. La beauté de ses proportions, la beauté de son architecture, le contraste saisissant entre sa façade sur Rome, comme une sorte de forteresse, et sa façade sur les jardins, dans toute une douceur et une harmonie romaine, de la Renaissance romaine, la beauté des jardins, leur dessin qui n'a pas varié depuis la Renaissance, l'ensemble est un trésor. Et le concept est un trésor. Ça fait déjà deux choses à préserver et à montrer.
Un patrimoine exceptionnel et puis des artistes qui séjournent dont on montre les créations.
Alors, les artistes, malheureusement, ont tendance à emporter leurs œuvres après leur séjour. Et je souhaiterais que désormais, ils laissent au moins une trace tangible de leur passage. Durant leur séjour, en revanche, ils exposent assez souvent leurs œuvres. Je ne peux pas les y contraindre, et d'ailleurs ce n'est pas mon intention, nous ne sommes pas dans ces rapports-là, nous sommes dans des rapports de confiance et d'amitié qui font que je les laisse travailler comme ils le souhaitent. Mais cependant, un certain nombre d'artistes présentent leurs œuvres dans des expositions thématiques qui leur sont consacrées. Cependant, cet été, nous allons faire une exposition qui s'appellera Città Aperta ou Villa Aperta. Nous allons ouvrir toute la maison en replaçant dans leur contexte certains envois de Rome, certaines œuvres du passé, en expliquant à quel point le lien historique entre la Villa Médicis et l'Académie des Beaux-Arts est fort. Et riche. Et dans ce contexte-là, nous présenterons un certain nombre d'œuvres aussi des pensionnaires.
La reprise de cette relation entre l'Académie des Beaux-Arts et la Villa Médicis est-il un élément important de cette nouvelle politique d'ouverture que vous dites?
Les relations n'ont jamais cessé. Les relations n'ont jamais cessé, puisque un certain nombre de membres de l'Académie des Beaux-Arts, devant lesquels j'ai eu l'honneur de m'exprimer il y a quelques instants, sont venus me voir en me disant « j'étais pensionnaire de la Villa Médicis ». Les relations n'ont jamais cessé. Elles ont simplement été marquées par une rupture institutionnelle. Une rupture institutionnelle sur laquelle il n'est pas question de revenir. C'est un fait qui a été installé par l'histoire, avalisé par le temps, et voilà. Cependant, je pense que si on prend l'histoire de la Villa Médicis dans sa globalité, il est important aussi de souligner la longue période où la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome et l'Académie des Beaux-Arts étaient liées. Et donc pour cela, il faut exposer aussi les œuvres du XIXe siècle, notamment, ou les œuvres que l'on trouve dans la bibliothèque, qui sont tout à fait intéressantes et qui portent le témoignage de cette relation.
Comment vous allez financer cette nouvelle politique d'ouverture
de la Villa? Pour l'instant, j'ai un budget à la Villa Médicis, un budget qui est reconduit chaque année, qui est un budget modeste, mais qui permet quand même un certain nombre d'actions. Et puis, j'espère bien que les divers partenaires auxquels je m'adresse dans mon travail, sur le plan de la conception de mon travail, seront aussi des partenaires matériels. Je ne peux pas en dire plus, là. C'est plutôt à eux de se définir par rapport à ça. Mais il est certain que le recours à la fois aux ressources propres de la maison, en faisant plus de visites, en permettant...
Les jardins vont être ouverts plus
souvent. Par exemple, oui. Le recours aux ressources propres de la maison ne m'interdit pas, bien au contraire, de solliciter des mécénats.
Frédéric Mitterrand, que pensez-vous de manière générale de l'état du rayonnement de la culture française?
Alors là, c'est une question qui est beaucoup trop importante à l'heure à laquelle je dois partir pour prendre un avion. L'état du rayonnement de la culture française, peux pas vous répondre comme ça. Je constate qu'en Italie, je constate que nous souffrons d'un double péché. L'un péché d'arrogance, qui fait que nous vous donnons des leçons à tout le monde. Je généralise, hein, parce que beaucoup de gens ne pratiquent pas ce genre de péché, mais d'une manière un peu globale, j'ai ce sentiment-là, d'une certaine arrogance française qui consisterait à donner des leçons à tout le monde. Et ce qui va d'ailleurs souvent avec un certain déni de soi, qui consiste à dire qu'on ne fait pas bien les choses, que finalement tout est foutu, que ça va se dégrader de plus en plus, etc. Et qui ne correspond pas à la réalité. Je n'arrête pas de rencontrer des Italiens qui parlent français, qui s'intéressent à la France. Regardez le nombre de Français qui vivent en Italie, mais regardez aussi le nombre d'Italiens qui vivent à Paris. J'ai pas ce sentiment-là, vraiment. Et j'ai le sentiment aussi que la France joue un rôle important pour aider un certain nombre de cultures émergentes à s'installer. Vous savez que si on devait faire des classements sur l'importance de la production cinématographique, on s'apercevrait que la France est presque au niveau d'Hollywood. Et que le nombre de films qui, à travers le monde, se font grâce à des coproductions françaises est considérable. Et que des cinéastes dans des pays tout à fait inattendus, comme le Kazakhstan, par exemple, tout à fait estimable, hein, mais inattendu, on ne s'attend pas à ce que la production française y joue un rôle. Eh bien, si, la production française y joue un rôle considérable et de nombreux films de régions aussi lointaines sont coproduites par la France et ne seraient pas produites du tout si la France n'intervenait pas. Donc, l'idée du rayonnement est une idée qu'il faut beaucoup affiner. Et si on la regarde de très près, on s'aperçoit que le rayonnement français est finalement assez considérable. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une vaste question qui pourrait nous occuper pendant une heure.
Merci Frédéric Mitterrand.
Merci à vous.
J'espère qu'on viendra vous voir à la Villa Médicis et que vous reviendrez nous voir pour nous parler de l'Académie de France à Rome.
Vous serez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci à vous.